sur le pont des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Peinture, photographie, cinéma, sculpture, musique. Dans l'actualité des arts, l'agenda de l'Académie des Beaux-Arts. Que se passe-t-il à l'Académie des Beaux-Arts au cœur de l'hiver 2012? Tout d'abord, Régis Varnier fut reçu sous la coupole de l'Institut de France le 2 février pour son installation au sein de l'Académie, où il a été élu en 2007 au fauteuil du cinéaste Henri Verneuil, décédé en 2002. De nombreuses personnalités du cinéma étaient invitées, parmi lesquelles Catherine Deneuve, Omar Sharif, Alain Delon, le ministre de la Culture Frédéric Mitterrand. Pour la circonstance, Marc Ladrette de La Charrière a prononcé le discours d'installation de son nouveau confrère et Régis Varnier a fait l'éloge d'Henri Verneuil, le cinéaste de La Vache et le Prisonnier, Le Clan des Siciliens ou bien encore Un singe en hiver. Dans la salle de réception de la cérémonie de sa remise d'épée d'académicien, des affiches des films des deux cinéastes tapissaient les murs. Ainsi, les affiches de La Ligne droite, le dernier film de Régis Varnier, celle d'Indochine, côtoyaient celle d'Henri Verneuil. Dans un mois, Jean-Jacques Hanau, membre de la section Créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel de l'Académie des Beaux-Arts, lui aussi, élu en 2007, sera à son tour reçu sous la coupole le 28 mars, au fauteuil précédemment occupé par Gérard Oury. Ainsi, les deux cinéastes, élus depuis quelques années, rejoignent en grande cérémonie les membres actuels Roman Polanski, Jeanne Moreau et Pierre Schoendoerfer. Cette fois, sur le pont des arts se penche sur le théâtre. Le grand couturier Pierre Cardin, membre de l'Académie, présente une adaptation de la vie de Sarah Bernard chez lui, chez Maxim's, dont il est propriétaire depuis 30 ans. Le spectacle intitulé « Sarah Bernard, toujours », adapté et mis en scène par Nicolas Logerot-Lasserre, d'après l'autobiographie de Sarah Bernard, est présenté chez Maxim's, à l'étage, dans une petite salle de théâtre qui peut accueillir 70 personnes. Le personnage mythique et extravagant de Sarah Bernard est incarné par Véronique Fourcault, qui se glisse dans la peau de la grande comédienne et raconte les moments clés de sa vie dans sa loge avant d'entrer en scène. C'est tous les dimanches à 15h chez Maxim's, 3 rue Royale à Paris. Retrouvons Pierre Cardin qui souhaitait depuis longtemps rendre hommage à Sarah Bernard, pour laquelle il avait organisé déjà, en 1976, une grande exposition à Paris. Vous allez découvrir un Pierre Cardin, grand admirateur de Sarah Bernard. Pierre Cardin, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la gentillesse de nous recevoir aujourd'hui à propos de Sarah Bernard Toujours, un spectacle de théâtre mis en scène par Nicolas Logerot-Lasserre, avec Véronique Fourcault dans le rôle de la grande Sarah Bernard, qui se joue tous les dimanches à 15h chez Maxim's, dont vous êtes, j'allais dire, le roi.
Le propriétaire,
mais aussi le maître des lieux.
L'initiateur,
vous avez fait revivre ce lieu magique.
Oui,
même.
Qui est un monument historique, comme vous le savez, qui a plus de 100 ans et ce restaurant a une renommée dans le monde entier.
Voilà, attaché à l'histoire de France et aujourd'hui à votre
Tour Eiffel et Maxime, voilà, absolument.
Dans un mouchoir de poche. Alors, Monsieur Cardin, d'abord, quelle est l'origine de ce spectacle que vous présentez?
Eh bien, étant donné que j'avais exposé à l'Espace Cardin il y a une trentaine d'années la vie de Sarah Bernard, en tout cas tous les documents qui m'avaient été remis, et j'ai eu l'idée de pouvoir remonter ce spectacle qui n'avait pas été monté à Paris depuis très très longtemps. Je voulais une jeune comédienne inconnue, naturelle, moderne. Et j'avais la chance de connaître Véronique Fourcault, qui est une petite nièce de Toulouse-Lautrec, comme vous le savez. J'ai trouvé qu'elle avait un naturel et une vérité en elle-même que l'on ne trouve pas souvent chez les comédiennes qui font un peu trop théâtral. Et je lui ai posé le problème si elle acceptait. Elle est cantatrice, elle est soprano dans la vie normale. Donc c'était pour moi une gageure de pouvoir lui demander de jouer la comédie alors qu'elle est cantatrice. Et je l'ai vu dans son comportement et dans sa vérité du personnage, un vrai talent de comédienne. Et je lui ai proposé le rôle. C'est moi qui lui ai proposé le rôle de jouer Sarah Bernard. C'était beaucoup risqué, car c'est quand même un personnage théâtral le plus connu, Sarah Bernard. Elle a accepté avec joie, évidemment. Elle était très inquiète et Elle a prouvé par sa vérité, sa nature, qu'elle était le personnage Sarah Bernhardt sur scène où elle raconte la vie de Sarah.
Alors, dans ce spectacle, elle raconte la vie de Sarah Bernhardt dans sa loge. C'est Sarah Bernhardt qui nous parle de sa loge. Elle va rentrer en scène une heure plus tard et elle est en train de se livrer gentiment au public sur sa vie, ses souvenirs, sur ce qu'elle va faire. Et on rentre très très facilement dans cette discours
intime. Dans la vie
intime.
Du personnage, absolument. Elle est incarnée elle-même avec un naturel et une simplicité qui n'est pas théâtrale. C'est ça qui est intéressant. On a l'impression d'une conversation avec une personne. C'est pas du tout un dialogue qui peut intellectuel. C'est une vérité de langage.
Alors que représente pour vous Sarah Bernhardt ?
Eh bien, Sarah Bernhardt est son personnage qui est très bien raconté par Véronique d'ailleurs, Véronique Foucault. Eh bien, c'est une femme qui a eu, comme très souvent les gens qui ont réussi brillamment, sont des gens très très simples. Elle est, comme vous savez, une petite fille malheureusement assez abandonnée dès l'enfance et qui a réussi par sa violence de personnalité à devenir, à conquérir le monde entier puisqu'elle a voyagé dans le monde entier. Et elle représente pour moi une très très grande... un personnage de l'époque, tel que pouvait être une comédienne à l'époque. Et Véronique ne lui a pas donné le côté maniéré, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer. Elle lui a donné un côté, Véronique de Foucault, j'entends la comédienne qui l'a interprété, lui a donné un langage d'aujourd'hui, tout en étant inspiré par la lecture qu'elle a appris, bien sûr qu'elle a appris son texte, mais elle le rend très humain, très vrai, naturel. Elle lui donne un ton conversation et pas du tout théâtral.
Mais est-ce que pour vous, Sarah Bernhardt incarne quand même une image de la France extraordinaire qu'elle a portée sur tous les continents ?
Elle a été un drapeau français, comme le cinéma actuellement, une vedette de cinéma peut le faire aujourd'hui. À l'époque, c'était beaucoup plus difficile parce qu'il fallait voyager à cheval ou en bateau. Il n'y avait pas l'avion, il n'y avait pas les voitures. Donc elle a eu beaucoup de courage d'entreprendre des voyages très lointains à Manaus, par exemple, où je suis allé, j'ai connu le théâtre à Manaus où elle a joué. Je suis allé au Brésil. Et elle a voyagé dans le monde entier, en réalité, toujours appelé, et une ovation étonnante, c'est la seule comédienne qui... La Douze est en italien, qui est la Douze et la grande comédienne qui était, dans la vie de D'Annunzio.
D'Annunzio, oui.
Donc, Sarah Bernhardt était l'équivalent de la Douze. La Douze était plus belle que Sarah Bernhardt. Je ne sais pas, je la trouvais très belle, Sarah Bernhardt, mais en réalité, elle ne devait pas être très très belle. Elle avait du caractère, plus précisément.
Est-ce que vous admirez aussi ces combats d'idées ? Parce que c'était une grande comédienne, mais elle était contre la peine de mort. Elle s'est prononcée dans son temps. C'était une femme libre.
Libre, entièrement. D'ailleurs, sa vie privée était très libre également. Je crois qu'elle a osé, vu son fanion qu'elle représentait, donc ses couleurs françaises, pendant la guerre, elle a osé prendre des décisions diplomatiques et politiques. Elle était une ambassadrice, en réalité. Sarah Bernhardt, quand on parle de Sarah Bernhardt, c'est la France. C'est des couleurs très bleu, blanc, rouge.
Vous-même, vous êtes ambassadeur pour l'UNESCO,
oui.
Toujours. On a envie de faire un parallèle entre ces personnalités un peu hors normes, quand même.
Moi, j'ai eu le courage et l'aventure de voyager dans le monde entier très très jeune, à l'âge de 20 ans. J'étais un aventurier, en réalité. Moi, c'était plutôt le côté d'abord curiosité qui m'intéressait, c'est-à-dire voir les musées, l'archéologie, de voir les physiques, de voir la politique, de voir le climat, de voir les raisons pour lesquelles les peuples étaient différents du français ou de l'européen. C'est une connaissance que je voulais avoir et évidemment en même temps d'imposer ma propre personnalité par mon talent, c'est-à-dire par la mode au départ.
Pour revenir au théâtre, le théâtre a une grande part dans votre vie de créateur.
Je voulais être acteur et danseur au départ dans ma carrière à 20 ans. La guerre est arrivée. Malheureusement, j'ai dû vivre car c'était difficile à l'époque. Avec des rutabagas, on n'était pas tellement gâtés parmi la jeunesse, c'est pas du tout comme maintenant. On avait tout ce qu'on veut maintenant, mais on n'en avait rien. Et puis voilà, quand je suis arrivé à Paris après la guerre, j'ai eu la chance de rencontrer Jean Cocteau, de travailler dans des films, comme vous le savez, dans La Belle et la Bête, où j'ai travaillé en premier avec Cocteau, Bérard, et puis Conti, Jean Donat, Christophe Germain, Sophus, enfin, j'ai connu tous les metteurs en scène de ma génération.
Le spectacle se joue dans le restaurant de chez Maxime, à l'étage. Dans ce lieu, vous venez d'évoquer Cocteau. Cocteau se rendait chez Maxime
régulièrement. Oui. Enfin, il y avait tout le monde entier chez Maxime à l'époque.
Sarah Bernhardt l'a fréquenté aussi, probablement.
Sarah Bernhardt, bien sûr, est allée chez Maxime aussi, bien sûr. Enfin, je crois que toute politique diplomatique, artistique, financier, armateur, enfin, bâtier, même les gens de la guerre de 14 ont donné beaucoup de dîners. Les Allemands également ont beaucoup habité Maxime.
Ce lieu, qui est une véritable empreinte de la vie parisienne et de Paris, aujourd'hui, jouer Sarah Bernhardt ou faire un spectacle sur Sarah Bernhardt, Cocteau-Guitry, s'est renoué avec cette vie parisienne très active, qui était en fait le symbole de l'esprit français, un peu élégant, un peu léger, en même temps assez profond. Est-ce que cette image qu'on peut avoir du passé, vous ne la présentez pas avec nostalgie, disons ?
Non, c'est une manière de présenter, si vous voulez, la comédie moderne, la comédie que l'on joue aujourd'hui, qu'on appelle comédie musicale. Fedot est éternel, c'est la caricature de la vie d'aujourd'hui et des comédies d'hier.
Ça n'a pas changé.
Et en même temps, c'est drôle, c'est amusant, c'est divertissant. On perd 2 heures de bonheur. C'est 2 heures de bonheur, en réalité, parce que les caricatures sont tellement fortes et vous dépassent en même temps. Et en même temps, quand on voit, c'est pas de la nostalgie, c'est une réalité qui existe aujourd'hui autrement, avec des mots différents, tout simplement.
Et la langue, la mise en scène font qu'on adhère immédiatement.
Tout à fait, on est dans le temps d'ailleurs et c'est amusant, on en rit rien qu'en en parlant.
En tant que spectateur du spectacle Cocteau Guitry, on est tout de suite emballé, ça s'est joué tous les lundis
chez
Maxime.
Oui, tous les lundis chez Maxime, qui est une salle que j'ai récemment créée, car au départ Maxime c'était un concert, c'était des chanteurs qui venaient chanter, Edith Piaf, Maurice Chevalier et bien d'autres avant, Barbara Streisand, Renate Lebal, enfin, Thierry Descanabois. J'ai eu beaucoup de grands du classique et du moderne et du classique en même temps, et j'ai voulu refaire un petit théâtre qui n'existait pas, c'était une cour auparavant là, pour redonner la tradition où ces chanteurs que je vous ai cités venaient passer une soirée en chantant et j'ai
et
redonné
l'actualité.
Et flambé.
On flambait, un mot d'autrefois.
Absolument.
Un mot d'autrefois. Pour revenir à Véronique Fourcault, qui joue et qui chante dans le spectacle Cocteau Guitry chez Maxime, là, vous lui avez offert un rôle de comédienne, un rôle pour incarner un monstre sacré. Elle est habillée d'une belle robe de scène blanche que vous avez créée.
Oui, pour Phèdre, n'est-ce pas ? Je n'ai pas fait le début parce que j'ai voulu qu'elle soit naturelle, comme si elle s'était habillée elle-même. Comme Sarah Bernard aurait pu s'habiller, j'ai pas voulu faire de la mode sur elle. Mais par contre, pour le rôle tout de même de Phèdre, je lui ai donné un côté classique, un peu modernisé, je dois dire. Mais en tout cas, elle a la présence et le physique d'une reine à ce moment-là.
C'est vous qui avez eu l'idée de ce spectacle, mise en scène et adapté par Nicolas Legros ?
Tout à fait, j'y pensais, c'était risqué fort, vous savez, une non-comédienne, une chanteuse lyrique, lui donner un rôle. Quand même, Sarah Bernard, j'ai pris 100% des risques. Je croyais en elle et je ne me suis pas trompé. Je crois que la presse a été très élogieuse et on a beaucoup applaudi, donc c'est pour elle merveilleux.
Alors, le spectacle a été créé au Festival de Lacoste l'été dernier, en 2011. Là, il est donné
en
à Paris.
À la presse.
Voilà. Et on peut venir tous les dimanches à 15h chez Maxime pour assister à ce très joli spectacle.
Parce qu'elle est drôle, elle fait pleurer, elle est comique, Elle a un don exceptionnel, c'est qu'elle vous fait rire et pleurer en même temps.
Une diction aussi.
Une diction parfaite. Et les gestes sont naturels, c'est pas théâtral, c'est moderne. Voilà. Ce que j'aime en elle, c'est que c'est une femme moderne.
Alors, cette femme moderne incarnée par Véronique Fourcault, vous collectionnez aussi les objets qui ont appartenu à Sarah Bernard depuis un moment. Vous avez au premier étage de chez Maxime un musée consacré
trois étages,
un musée sur l'art nouveau. Et là, pour le spectacle Sarah Bernard toujours, il y a une petite exposition qui est visible où vous avez pu faire venir plusieurs objets ayant appartenu à la grande comédienne.
Oui, j'ai demandé aux personnes, à des amis et des relations, s'ils avaient des possessions d'objets portés par elle ou même des bibelots. On a réussi pas mal de choses et surtout beaucoup de peintures et de photos, comme vous avez pu le voir. Et moi-même, dans ce cadre, qui est un musée que je collectionne depuis l'âge de 20 ans, donc ça crée une atmosphère de vérité. C'est pas du tout un musée froid. On rentre dans une véritable maison avec des véritables objets utilisés et utilitaires dans des chambres, il y a la salle de bain, il y a vraiment la vérité d'un musée. Ce n'est pas du tout en exposition seulement.
Donc là, il y a un sens vraiment en faisant jouer un spectacle sur Sarah Bernard à propos d'elle, qui raconte sa vie.
Elle est chez elle.
Elle est chez elle. En plus, elle est au cœur de Paris et vous nous rappelez cette histoire
cette
d'une
période
femme extraordinaire.
De cette grande comédienne et tragédienne. Moi, j'ai toujours aimé l'art 1900. Depuis l'âge de 18 ans, j'ai collectionné dans le monde entier, en Russie, en Amérique, surtout en Belgique. Pas en Italie, très peu en Italie, mais en Autriche, en Munich. En France, évidemment, l'art nouveau, qui est une expression que j'aimais beaucoup, car c'était pour moi les racines, les fleurs, c'était l'écologie, le vert est ma couleur, alors que tous les gens détestaient ça, les grands-parents. Dans les greniers, les jetaient, les meubles de cette époque-là, c'était trop compliqué, trop sophistiqué. Et moi, bien au contraire, je trouvais qu'en opposition par rapport à l'art mode contemporain, il n'y avait pas de froideur, il y avait une sensualité d'abord et en même temps un talent d'imagination.
Monsieur Cardin, quel regard portez-vous sur Sarah Bernard ? J'allais dire homme d'affaires, femme d'affaires, elle rachète les théâtres. C'est quand même extraordinaire pour son époque. Elle a un culot extraordinaire, même si elle en avait les moyens.
Elle achète le
théâtre de la Renaissance, des Nations, elle lui donne son nom, oui. Elle achète l'Odéon.
Non, je ne crois pas qu'elle ait acheté
l'Odéon.
Elle a joué à l'Odéon,
Française. Mais quel regard vous portez sur ce parcours complet?
C'est une femme qui avait les pouvoirs d'abord, qui a dû gagner beaucoup d'argent, car à l'époque, elle avait beaucoup de généreux qui l'admiraient, qui lui donnaient de l'argent. Et quoi faire à l'époque, c'était d'avoir son propre théâtre pour se produire elle-même.
Cette liberté totale...
Absolument, elle était libre, indépendante et provocante en même temps.
Est-ce que vous voyez quelqu'un incarner aujourd'hui une telle liberté?
Il y a Marie-Belle, par exemple, qui avait essayé de faire son théâtre également, qui a gagné de l'argent qu'avec Goluche, paraît-il, d'après ce qu'elle m'a dit. Elle a rêvé elle était aux Français.
Oui.
Marie-Belle, et là, c'est elle qui me l'a raconté, l'histoire. Elle rêvait d'une Rhodes. Elle n'a jamais pu, avec les cachets du Français, se payer une Rhodes. Et finalement, elle a acheté le théâtre quand même d'Antoine, je crois. Et avec l'argent, elle a mis Goluche à l'actualité dans son théâtre et s'est acheté. C'est elle-même qui me l'a dit. La Rose, à travers l'argent qu'elle a gagné avec Goluche. C'est assez incroyable, je dois dire.
C'est-à-dire, c'était c'est une pirouette.
Un humour et un esprit qui n'était pas celui du Français. C'était pas Antigone. C'était pas des spectacles du Français, comprenez-vous.
Non.
Malgré qu'il y a eu Marivaux, qu'il y a eu des choses fédos, enfin des choses drôles.
Des choses classiques et drôles.
Entre Goluche et ses personnalités-là, c'est très différent.
Pierre Cardin, je repense juste à un détail de Sarah Bernhardt, qui était une femme un peu excentrique, qui osait vraiment beaucoup de choses dans sa carrière, mais aussi dans ses goûts, dans le choix de ses amants. Elle a quelque chose de fascinant, elle osait tout, avoir des animaux exotiques. Bon, vous-même, vous avez fait, par exemple, je pense à cet avion que vous avez griffé dans les années 70,
oui.
C'est aller au bout de ses rêves. Est-ce que vous étiez comme Sarah Bernhardt? Vous êtes Sarah Bernhardt,
oui,
cette ténacité?
Moi, j'ai l'ambition, comme vous le voyez. Je ne suis pas orgueilleux, je suis ambitieux. C'était très différent. J'ai un métier qui me permet commercialement de m'expatrier facilement. Et puis, la mode est un élément social en même temps, donc qui fait travailler l'industrie. Donc, j'ai une autre dimension, en réalité, parce que la presse nous aide beaucoup dans ce domaine-là. C'est le métier peut-être le plus propagé par les journaux. Donc, quand on a la chance d'être un créateur et d'être estimé et reconnu, on a beaucoup d'avantages dans ce sens-là. Théâtre, quand même, est plus difficile, à mon avis. Bien sûr, un nom est difficile dans le théâtre aussi, mais quand il a réussi, il a moins de portée qu'un grand couturier qui est tous les jours à la une, dans tous les journaux.
Bien sûr. Merci, Pierre Cardin, de nous avoir éclairé sur ce spectacle. Sarah Bernhardt, toujours. Le titre, c'est Nicolas Logereau-Lasserre qui l'a trouvé ou c'est vous?
Oui, enfin c'est une collaboration, bien sûr, on est toujours en rapport permanent. Nicolas travaille dans mon théâtre, donc voilà, il a pris la mise en scène qu'il a acceptée. Il en a fait une vérité, il a très bien, c'est un esprit jeune. On rentre vraiment dans la loge de Sarah Bernhardt. Et le décor est authentique puisque ce sont des meubles d'époque, qui m'appartiennent d'ailleurs, et ça donne un sentiment de vérité, ça n'est pas du tout théâtre.
C'est une petite salle, on a vraiment l'impression d'être dans la loge, puisque la scène est petite, il y a 70 places.
C'est une véritable loge.
Et on rentre dans l'intimité de la grande Sarah
Bernhardt. Qui se raconte avec ses drames de jeunesse, cette vie difficile qu'elle a eu, des parents qui ne l'ont pas aimée, qui l'ont vraiment écartée de leur enfance, et qui a eu le courage et le talent surtout de pouvoir exister par elle-même à travers... Elle s'est formée elle-même en réalité, et elle a rencontré évidemment des gens exceptionnels dans le monde, puisqu'elle a eu des hommages... de toutes les personnes les plus éminentes, donc c'est quand même quelqu'un qui doit être assez rare et assez intéressant et intelligent sûrement, pas seulement à mémoire.
Vous auriez aimé la rencontrer?
Oui, j'aurais aimé la rencontrer. J'ai rencontré par mon travail et par ma vie d'ailleurs qui est assez longue, énormément de comédiennes dans le monde entier,
de
cinéma et des actrices aussi bien sûr.
Que vous avez habillées et...
Oui, ça j'ai habillé même des politiciennes comme Evita Perón, des gens qui ne sont pas dans la mode, ou dans le théâtre, ou dans le cinéma. J'ai rencontré bien sûr beaucoup d'ambassadrices, beaucoup de Derrière, enfin, des Fradiba, enfin, pour citer qu'elle.
Enfin, la reine d'Iran.
Deng Xiaoping, enfin, la femme de la fille. Enfin, j'ai rencontré beaucoup de personnalités dans le monde mondial, de la finance, de la politique et du théâtre.
Au carrefour de tout.
Oui,
de
le cinéma bien sûr, je voulais être acteur aussi, donc j'ai dans le journalisme. Enfin, ma vie est assez particulièrement riche en ayant vécu des moments intenses et très personnels en même temps.
Pour juste conclure sur Maxime, Sarah Bernhardt et vous, Quand vous poussez la porte de chez Maxime, qu'est-ce qui se passe dans votre tête?
Quand j'ai mangé la première fois chez Maxime, invité par Madame Elvire Popescu, qui était une grande comédienne roumaine, elle m'a fait manger du caviar, ce que je n'avais jamais mangé de ma vie. Mes parents n'avaient pas les moyens de se payer du caviar. Et deuxièmement, je n'en avais jamais goûté. Et elle m'a dit, est-ce que tu aimes le caviar? J'ai dit oui, j'avais 19 ans. J'étais un peu menteur, si on peut dire. Je n'en avais jamais mangé. Et elle me dit, eh bien alors on va prendre du caviar dans une grande coupe en argent et cristal. Et c'était à la louche chez Maxime à l'époque. Et elle en servait la coupe avec vraiment un kilo de caviar. Elle m'en met vraiment une louche dans mon assiette. J'avais jamais mangé ça, ces petits grains noirs me faisaient peur. J'étais un peu appelé, ça me faisait des petites fourmis, c'était très rejeté. Et je goûte. Oh, je me dis, c'est pas possible, jamais j'arriverai à manger ça. Et pour lui convaincre que j'aimais le caviar, j'ai avalé.
Vous avez mis
tout
un
mon
point
caviar
d'honneur.
En l'espace de 3 minutes, j'ai avalé toute ma louche. Mais elle m'a dit, mais en effet, je vois que tu aimes bien le caviar. Elle m'a remis une deuxième louche. D'abord, j'ai cru mourir. J'ai dit, jamais j'oublierai cette soirée première chez Maxime, invité gratuitement manger du caviar.
Voilà, ça vous a porté chance et c'est une
histoire d'une belle histoire. Après, j'ai appris à manger le caviar et à l'aimer surtout.
Merci beaucoup, Pierre Cardin, de cet entretien.
Merci.
Sur le Pont des Arts vous donne rendez-vous le mois prochain autour de l'actualité du dessin et de la gravure. Et en attendant, vous signale une petite exposition au Louvre qui présente les dernières gravures et estampes de l'atelier 2, la calcographie du Louvre.